Chapitre 18. Devant le prestigieux petit déjeuner américain du Ritz-Carlton New York, je bâille, fatigué. « Vous avez mal dormi ?» s'inquiète Andy. Notre table surplombe Central Park. Le vent agite la terre des ormes. « C'est chiant. »« Quoi, c'est chiant ?» s'interroge Andy en étalant sa marmelade d'orange sur ses tartines grillées. « Syntex, c'est chiant. J'ai essayé de lire Citadel hier soir. » Ces récits de guerre aussi. J'y ai passé une partie de la nuit. C'est chiant. Vraiment? Le petit prince, c'est léger. Fin. Drôle. Mais alors le reste? Ces métaphores sur Dieu, les hommes, la planète? On dirait un cours de philo mélangé à un sermon de curé. Andy sourit. Elle se contente de se tourner vers le balcon en grignotant son bacon. Je suis certain que vous pensez comme moi, au fond. Elle ne me répond pas. Syntex était devenu un type chiant, non? Égocentrique, menteur, crâneur, comme si ce n'était pas lui qui avait écrit ce conte pour enfants. Andy se redresse d'un coup. Qui alors? Le petit prince, lui, Syntex, mais avant d'être devenu un adulte ennuyeux, avant que ce qui restait de l'enfant joyeux soit complètement mort en lui. Elle réfléchit, longuement, puis elle dit « En route !» J'ai encore bâillé toute la route dans le taxi. Andy m'a expliqué que grâce aux relations de Marie-Swann et d'Ocodolo, les conservateurs nous ouvriraient une salle spéciale pour consulter le manuscrit original. J'ai bâillé devant le musée, puis au guichet. Je ne me suis vraiment réveillé que lorsque nous sommes entrés dans la bibliothèque de la Morgan Library and Museum, entourés de quatre murs de livres incroyablement hauts, des remparts de livres, un fort retranché de livres. Avec Andy, nous écoutons à peine le guide parler de la collection de 350 000 volumes, des pièces uniques, des bibles de Gutenberg, des partitions de Mozart ou de Beethoven, des illustrations de Van Gogh. Nous nous contentons de le suivre jusqu'au bunker VIP où nous attend le manuscrit offert par Saint-Exupéry à Sylvia Hamilton le jour de son départ. Andy, aussi fraîche qu'un trèfle lavé par la rosée, me glisse dans la main un exemplaire de poche du Petit Prince. Elle n'en a pris aucun pour elle, elle le connaît par cœur. J'ouvre le livre et je demande « On cherche quoi ?» Seuls les enfants savent ce qu'ils cherchent. Je lui tire la langue. « Je plaisante, monsieur l'aviateur. Nous devons jouer au jeu des sept différences. Il faut trouver tout ce qui change entre la version française publiée en 1946, que Saint-Exupéry n'a jamais vue, et le vrai livre qu'il aurait pu écrire s'il n'était pas parti à la guerre. » Chaque feuille du manuscrit est exposée, protégée par une plaque de verre. Des esquisses des dessins du Petit Prince et des pages de texte. L'écriture de Saint-Exupéry est presque illisible, souvent raturée, annotée de flèches, de mots dans la marge. Je dois me concentrer. Raté. Andy me donne un coup de coude. Oh, regardez, Neven. Vous vous souvenez? Quand nous avons approché des côtes de l'Amérique du Nord, je vous ai rappelé cette phrase de Saint-Exupéry. Si les 2 milliards d'habitants qui peuplent la Terre se tenaient debout et un peu serrés, comme pour un meeting, il logerait aisément sur une place publique. On pourrait entasser l'humanité sur le moindre petit îlot du Pacifique. Eh bien, lisez la version originale. Je déchiffre. Sur ce passage-là, Saint-Exupéry s'est davantage appliqué. Si Manhattan était couvert de buildings de 50 étages, et si les hommes debout l'un à côté de l'autre remplissaient bien tous les étages de ces buildings, l'humanité entière pourrait se loger dans Manhattan. « C'est tout de même étrange !» explose Andy, follement excité. « Pourquoi avoir changé l'ensemble de ce passage? Pourquoi avoir choisi de remplacer la référence à Manhattan par une île perdue dans l'océan ?» Je n'en ai aucune idée. Je me doute qu'Andy note tout cela dans un coin de sa tête. Je m'attarde sur les illustrations. Elles sont infiniment plus tristes que celles de la version finale du conte. Le petit prince y apparaît souvent soucieux, en colère, échoué ou allongé dans un désert de dunes qui ressemble à des vagues, ou tenant, étonnamment, son renard en laisse. Aucune esquisse de sa rose, aucune esquisse du serpent ou de la mort du petit prince. Pourquoi ? Je retourne aux pages manuscrites. Au jeu des sept différences, je suis plus rapide, ou moins consciencieux qu'Andy. J'en suis déjà à la dernière feuille qu'elle n'en est pas à la moitié. Soudain, j'ai beau comparer mon édition du Petit Prince et ce que je lis dans la vitrine, je n'en crois pas mes yeux. La fin, dis-je, troublé, en interpellant Andy. La fin n'est pas la même. Quoi ? Dans la version de Sylvia Hamilton, la fin est très différente de celle de la version éditée que nous connaissons. Écoutez, je vous lis. Je suis hors jeu. Je n'ai jamais dit aux grandes personnes que je n'étais pas de leur milieu. Je leur ai caché que j'avais toujours 5 ou 6 ans au fond du cœur. À mon tour, j'ai du mal à cacher mon excitation. C'est la preuve qui confirme toute votre démonstration, Andy. L'enfance comme le plus intime des secrets. L'enfance sacrifiée. À ma plus grande surprise, et plus encore, à ma plus grande déception, Andy ne m'écoute pas. Elle est occupée à lire une autre page. Agacée, je m'approche. Je repère la page sur laquelle elle se concentre. Impossible de ne pas reconnaître le dessin du renard lors de sa rencontre avec le petit prince. Je lis par-dessus l'épaule d'Andy quelques-unes des phrases les plus célèbres du conte, celles qui lui donnent tout son sens. Voici mon secret. Il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose, qui fait ta rose si importante. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Andy se penche, le nez presque collé à la vitrine, sur des ratures que je ne parviens pas à déchiffrer. Je m'aperçois que des larmes coulent de ses yeux, qu'elle sanglote, qu'elle murmure. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On n'aurait rien compris. On se serait trompé depuis le début. On aurait tout inversé. Je tire la manche de son blouson pour qu'elle m'explique, mais elle renifle une dernière fois et me dit « On y va. Vite, on y va. Marie-Swann nous attend. » Elle n'ajoute rien d'autre. Elle n'a pas envie de partager ce qu'elle a découvert dans le manuscrit original. Pas pour l'instant. Elle est trop bouleversée pour que je la bouscule. Plus tard, conclut-elle. Plus tard, Neven. Marie-Swann nous attend. Andy se trompe pourtant.
Fox Company, c'est Marie-Swann.
Le téléphone d'Andy a carillonné alors que nous étions installés sur un banc de Central Park à compter les écureuils roux. Andy appuie sur le haut-parleur pour que je participe à la conversation.
« Je voulais vous prévenir, »
fait la vieille dame.
« Ce n'est pas la peine de venir.
Quoi ?» La communication est hachée, comme si Marie-Swann se déplaçait dans un endroit clos. Une voiture, un avion, un bateau.
« Ce n'est pas la peine de se revoir. »
répète la vieille femme.
« Je vous ai tout dit hier, sur les trottoirs de Manhattan. Et je me suis trompé. »
Je lance des yeux stupéfaits à Andy. « Ai-je bien entendu ?» Elle me répond en haussant les épaules d'impuissance avant de crier.
« Où êtes-vous, Marie-Swann ? On ne vous entend pas bien. On se retrouve à Central Park comme prévu ?»
La vieille femme, de son côté, paraît très bien entendre. Sa voix est de moins en moins saccadée, comme si elle s'approchait d'un lieu où les communications passent mieux.
« Non, non, ma petite. Je vous ai emmenée sur une fausse piste. Tonio n'a pas tué l'enfant en lui. Je reviens sur ma déclaration. Saint-Ex n'a pas tué le petit prince. Ce n'est pas lui l'assassin.
Marie-Swann parle de la même façon qu'un témoin qui se rétracte devant deux flics dans un commissariat. Je n'en reviens pas. Andy non plus.
Vous plaisantez, Marie. Tout concorde.
J'entends la vieille femme rire doucement.
Forcément, tout concorde. Mais vous croyez Tonio aussi stupide que ça? Il faut se méfier des évidences. C'est ce qu'il nous enseigne. Comme tout roman policier, le petit prince est truffé de fausses pistes. Tonio vous a tendu un piège et vous êtes tombé dedans.
Andy se fige, désarçonné. Je devine qu'elle récapitule tous les indices dans sa tête. Les extraits du petit prince, les lettres de Saint-Ex, toutes ses références à son enfance.
Ma petite,
continue Marie-Swann.
Croyez-moi, Tonio n'a pas pu sacrifier l'enfant en lui. Impossible. C'est écrit. Il y a un indice majeur que vous avez laissé filer.
Pourquoi ? Où ça ?
Andy s'est levé du banc, vexé. Marie-Swann lui répond très calmement par une question.
Quand il rencontre Saint-Ex dans le désert, qu'est-ce que le petit prince demande en premier?
Dessine-moi un mouton, évidemment, mais...
Ça ne vous rappelle rien?
Coupe Marie-Swann. Andy jette des coups de pied dans les graviers, énervé. À en crever l'œil d'un écureuil. Non, ça ne lui rappelle rien, ni à elle, ni à moi.
Allez, allez!
Joue Marie-Swann.
Un homme qui doit sacrifier un enfant, son enfant, et un mouton.
Enfin, je comprends. Je n'en reviens pas. Je me lève, m'approche du téléphone et parle d'une voix essoufflée. Le mouton, c'est l'animal qu'on sacrifie, aussi bien chez les chrétiens, les juifs que les musulmans. Je plonge dans mes souvenirs de catéchisme. Parce que Dieu, ou Allah, demande à Abraham ou Ibrahim, le père des hommes, de tuer son fils Isaac. Et au dernier moment, il le remplace par un mouton. À la place de l'enfant, c'est un mouton ou un agneau qui est sacrifié.
« Bravo, l'aviateur !»
fait la voix moqueuse de Marie-Swann.
« Vous êtes moins bête que je ne pensais. »
« Ce n'était pas bien difficile, pensais-je. Tous ceux qui vont à la messe ou fêtent l'Aïd savent ça. » Andy, troublé, réfléchit à haute voix.
« Le mouton, dans Le Petit Prince, signifierait que Saint-Exupéry devait sacrifier son enfance pour partir à la guerre ?» Mais qu'il ne le fera pas. Il n'osera pas. Quand le petit prince demande à l'aviateur de dessiner un mouton, il demande à l'adulte de ne pas le sacrifier, d'envoyer un mouton à sa place sur l'astéroïde B612. Un mouton qui vive longtemps, précise-t-il, mais enfermé dans une caisse qui ressemble à un cercueil. Nom de Dieu ! C'est évident quand on y pense.
Eh oui, ma petite.
Triomphe Marie-Swann. Nous captons désormais parfaitement la communication, comme si elle était parvenue à destination.
« Qui ?»
demande alors Andy, qui ne perd jamais le nord.
« Qui a tué le petit prince ?»
La voix de la vieille femme paraît soudain fatiguée.
« Ce n'est pas à moi de vous le dire. Il y a d'autres témoins. D'autres témoins qui en savent plus que moi. »«
Ce Moïsès ?»
demande Andy.
Sur l'île de Conchaguita au Salvador? Le troisième membre de votre club sur la liste?
Peut-être, s'il est encore en vie. S'il est en état de vous parler, ce qui m'étonnerait.
Marie-Swann rit encore.
Dites-m'en plus,
insiste Andy. La vieille femme hésite, mais ne peut pas résister.
Le vrai mobile, ma petite. Pendant des années, je n'ai pas voulu me l'avouer. C'est le plus vieux du monde. C'est la passion. C'est l'amour. C'est la jalousie.
Elle marque un court silence avant de continuer.
Relis le livre. Ça crève les yeux. Le petit prince, c'est la rose qui l'a tué.
Puis elle ne dit plus rien. J'entends juste dans le téléphone un chien aboyer. Marie-Swann raccroche. Elle est arrivée. Elle vient de retirer son chapeau devant son reflet dans le miroir. Cette vieille femme laide, en face d'elle, la salue. Hannibal la reconnaît et aboie une seconde fois. Idiot. La porte de l'ascenseur s'ouvre. Marie-Swann va enfin pouvoir tourner le dos à cette image insoutenable. Le vent, sur le toit de l'Empire State Building, souffle fort. Elle serre plus fort encore entre ses genoux la boîte rectangulaire. Si légère que si elle la lâchait, elle s'envolerait jusqu'à l'Hudson. Si légère que ses vieux bras fatigués peuvent la porter sans difficulté. Elle va l'ouvrir au bord du vide, pour s'offrir un dernier vertige, pour regarder une dernière fois la ville d'en haut, comme au temps béni où elle lançait des avions en papier et des bombes à eau, du temps où elle était belle, où elle était la fiancée du petit prince, où elle était sa rose. Marie-Swann bloque les freins du fauteuil à quelques centimètres du vide, plus de 300 mètres au-dessus de la 5e avenue. Elle soulève la boîte. Qui a pu envoyer ce colis? Cet ivrogne de Moïsès? Ce fou dangereux d'Isard? Ce sage et lâche Oshie? Enfin, elle va savoir qui est le traître. Elle ouvre la boîte. Avant même qu'elle ait le temps d'esquisser le moindre autre geste, le serpent jaillit. Il n'y eut rien qu'un éclair jaune près de sa jambe. Elle demeura un instant immobile. Elle ne cria pas. Elle tomba doucement comme tombe une feuille à l'automne. Ça ne fit même pas de bruit, à cause du vent. Un premier passant sur la 5e avenue leva les yeux vers le haut du gratte-ciel. Un autre cria. Plusieurs autres hurlèrent. Des voitures pilèrent, des appareils photos crépitèrent. Ils crurent d'abord qu'un morceau de balcon ou de toit s'était détaché, puis qu'un dingue avait balancé par sa fenêtre une table de chevet, un frigo ou une machine à laver, avant de reconnaître la forme irréelle d'un fauteuil roulant qui, telle la chaise d'un extraterrestre infirme venu du fond de la galaxie, tombait en toupie pour s'écraser au milieu de la rue.